Politiquement incorrect. Cube
Radio. Le Devoir demande à plusieurs personnalités de réfléchir sur la période bizarre qu'on vit actuellement avec le confinement, la pandémie, l'après-pandémie. À quoi va ressembler le monde après cette crise-là? Est-ce qu'on va avoir appris de nos erreurs? Qu'est-ce qui va changer? Et là, on a demandé à M. Gérald Larose, vous connaissez, ex-président de la CSN, professeur invité à l'École de travail social de l'UQAM, d'écrire un texte, un super bon texte, un texte extrêmement intéressant. M. Larose est avec nous. Bonjour, M. Larose.
Bonjour.
Vous avez des craintes que, bon, on dit que le télétravail, maintenant, on a découvert les avantages du télétravail et qu'on devrait l'utiliser beaucoup plus maintenant. Et vous avez des craintes et je partage vos craintes aussi. Parlez-nous donc là, des craintes que vous avez concernant le télétravail.
Bon, c'est sûr que c'est une tendance qui préexistait à la pandémie. Il y avait quand même dans l'ensemble du secteur des services beaucoup de travail numérisé, du travail à distance, mais qui s'imposait ou s'appliquait graduellement. En quelques jours, on a vu cette organisation du travail s'imposer massivement. Alors, les salariés ont été obligés de s'y mettre, mais aussi tous ceux qui sont en rapport avec les salariés de la même manière. Alors, la rapidité avec laquelle ça s'est fait, c'est sûr que l'adaptation à cette nouvelle réalité a posé un certain nombre de problèmes et par, essence, cette façon de travailler induit quand même de l'isolement, induit du contrôle. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a quand même une augmentation de la productivité dans cette organisation du travail. Et je suis pas sûr que dans cette nouvelle organisation, il y ait les contrepoids pour répartir la richesse qui va être induite par cette nouvelle organisation du travail. Il y a des avantages, c'est sûr, au plan de la flexibilité, au plan de la conciliation, disons, travail-famille, mais les inconvénients peuvent être douloureux pour les individus comme pour les collectifs.
Un des inconvénients, M. Larose, c'est qu'il y a quasiment un esclavage. Là. Il y a pas d'excuse de ne pas travailler à 7 heures le soir puis à 8 heures le soir, étant donné qu'on vit au bureau.
Oui. Alors, c'est le droit à la déconnexion.
Oui.
Alors, c'est sûr que à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Et je connais, puis je suis peut-être une des victimes aussi. Finalement, on est toujours très tôt. Et on finit très tard, et on mange sur le coin de la table. Donc, on est constamment sollicité, dépendant du travail qu'on fait. Mais par définition, le travail à distance, c'est qu'on est connecté à toutes les sollicitations qui nous sont formulées, soit par le service, soit par la...
Ben oui! Parce que quand on travaille au bureau, là, mettons de 9 à 5, à 5 heures, on ferme la porte, on s'en va chez nous, puis c'est fini. Puis s'il y a quelque chose, on va travailler demain matin, 9 heures, je vais reprendre le dossier. Mais là, ils vont dire, ben non, mais t'es chez toi, là. Chez toi, c'est ton bureau, là.
Mais je pense qu'il y aura une revendication qui va se formuler. D'ailleurs, ça a été acquiescé en France, le droit à la déconnexion. Autrement dit, on donne une prestation de travail qui est peut-être de 8 heures, qui est peut-être de 7 heures, mais il faut que ces choses-là soient encadrées. Sinon, par définition, la sollicitation sera toujours là. J'ajoute que dans ce travail, il y a quand même une forme aliénante qui est celle d'être isolé d'une façon permanente, j'allais dire au plan physique. Parce que dans les lieux de travail, il y a quand même une multitude d'échanges qui se font à la faveur de la rencontre dans le corridor, dans l'ascenseur, au café. Donc, il y a une vie sociale enrichissante, tandis que quand on est isolé dans la maison, toujours avec son petit noyau, il peut y avoir assèchement de la vie communautaire, de la vie sociale. Ça, c'est pas encore documenté, je dirais, avec, disons, moult données, mais je suis convaincu que c'est un des désavantages de cette organisation.
Ben oui, puis vous, ancien syndicaliste, qu'est-ce que les syndicats prônent? C'est le regroupement des travailleurs, que les travailleurs unissent leurs forces, là, chacun dans leur coin, puis même le travailleur maintenant va pas se considérer comme un travailleur, comme un employé, mais va se considérer plutôt comme quasiment un chef d'une mini-entreprise.
Oui, ben c'est d'ailleurs une tendance lourde, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup maintenant de l'emploi qui est de l'emploi autonome, un emploi où la personne est entrepreneur, c'est une tendance qui est un peu contraire à la dynamique traditionnelle du travail, qui est quand même l'appartenance à un collectif qui produit un service, des biens, et donc ça se fait collectivement. Il y a des appartenances collectives, il y a des intérêts collectifs. Alors, dans le travail à distance, c'est moins évident.
Et là, on l'a vu, c'est l'ubérisation du travail, puis on le voit, que, là, on devient totalement les Uber, là. C'est des gens qui croient qu'ils sont les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants, mais dans le fond, ils se font exploiter au max par une entreprise.
Ils sont totalement dépendants, et en fait, l'entreprise externalise tous les coûts. C'est-à-dire, autrement dit, ce que ça coûte pour travailler, il fait porter par le travailleur, et lui, il ne fait qu'encaisser les profits au bout de la ligne. Alors, l'ubérisation du travail peut très bien servir, je dirais, de modèle au travail à distance qui s'est développé pendant la pandémie.
Vous parlez aussi de Justin Trudeau, là, qui a ne cesse de multiplier les programmes d'aide, qui distribue des centaines de milliards de dollars à toutes les victimes de la pandémie. Et vous écrivez, cet argent n'existe pas. Il l'emprunte aux générations futures.
Oui. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que il emprunte cet argent-là aux générations futures, mais pour reproduire le modèle qu'on a développé à venir jusqu'à maintenant, qui est un modèle quand même qui taxe les communautés, la nature. C'est pas un modèle là qui a la vie éternelle, hein. C'est un modèle qui est dont la finitude est inscrite dans le temps. Moi, j'aurais pas de problème à emprunter aux générations futures si on est pour faire la transition énergétique, la transition écologique, dans laquelle il y a le plus d'emplois, dans laquelle l'emploi est plus intéressant. C'est un emploi relationnel, c'est des emplois de proximité. On recrée, je dirais, la vie sociale. Ça, je serais prêt à consacrer des dollars là-dessus. Mais pour reproduire un système mondialisé, financiarisé, au profit, j'allais dire, d'une nation totalitaire qu'est la Chine, et au profit de magna capitaliste, je suis totalement en désaccord. En fait, on conduit l'ensemble de la société dans un mur. Alors ça, moi, je pense qu'il y a un débat à faire là-dessus.
Et vous, en tant qu'homme de gauche, on sait les gens de gauche veulent un État qui soit fort, un État qui soit présent. Et là, l'État est revenu. C'est la vengeance de l'État. Là, l'État est partout maintenant, aide tous les secteurs de l'économie. On s'en remet énormément à l'État. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
Oui, c'est une bonne nouvelle au sens où c'est la contradiction totale par rapport au néolibéralisme, qui ont toujours dénigré l'État, l'État ça sert à rien, c'est toujours dépensier, etc. Mais quand on est dans la difficulté, on appelle l'État au secours. Moi, je suis pas pour un État gros. Je suis pour un État efficace. Et on parle du système de santé. Couillard et Barrette ont des morts sur la conscience. Ils ont centralisé, médicalisé, ils ont hiérarchisé, ils ont dépossédé à la fois les salariés et les communautés de leur institution. Les 4500 morts qu'on a, c'est la contribution de M. Couillard, de M. Barrette, en même temps que d'être responsable de la plus grande honte nationale qu'on ait connue ces dernières années. Je suis pour un État intelligent, un État bien organisé, pas un État hiérarchisé produit au profit d'une caste qui est les médecins, des services qui produisent là-bas. Ça, je suis horrifié de cette situation.
Et M. Larose, on voit, là, on est rendu à quémander l'aide de l'armée, littéralement pour laver nos personnes aînées dans les CHSLD. M. Larose, vous le savez, là, ça fait des années qu'on est au courant des situations dans les CHSLD, que le personnel pétait aux frettes, qu'il manquait de gens. Là, soudainement, c'est quand on arrive devant le problème, quand on est dans le pétrin, là, on prend les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que là, on va augmenter le salaire, puis là, on demande aux gens de... On aurait pu faire ça avant.
Ben, disons, c'est le résultat de la réforme Barrette. Tout a été fait pour l'hôpital, au détriment de la prévention, des services à domicile, au détriment des CHSLD, au détriment de tous les services de première ligne. On a tout centré dans l'hôpital, et dans l'hôpital, on a tout centré sur les médecins. C'est ce que j'appelle la centralisation, la médicalisation, la hiérarchisation. Ils ont milité fort pour atteindre ce résultat-là. Mais on peut, déstructurer cette machine bureaucratique pour la renvoyer à la communauté. Rappelez-vous qu'on a eu, pendant un certain temps, les régies régionales de santé qui étaient composées d'intervenants de toute la communauté. Les docteurs n'étaient pas majoritaires là-dessus. Il y a eu d'excellentes expériences d'intégration des services ou de la conduite de programmes pour la jeunesse, par exemple, qui se faisaient inter-établissement, intervenant. C'était pas centralisé comme c'est centralisé aujourd'hui. Alors, on est capable de faire ça autrement, et j'espère que la pandémie va nous amener à réfléchir pour recentrer tout le système de dispositifs, non pas sur la maladie, mais sur la santé, la prévention, le maintien à domicile, autrement dit, brancher le réseau sur la communauté et non pas sur les docteurs.
Tout à fait. Puis en terminant, vous vivez ça comment personnellement, le confinement? Est-ce que vous trouvez qu'on exagère? Est-ce que de dire aux gens de rester chez eux à tout prix, là? On dirait qu'on oublie aussi les personnes âgées qui sont en santé, qui sont autonomes, qui sont pas des enfants, on les infantilise un peu. Vous vivez ça comment?
Oui, ça c'est sûr que c'est-à-dire sur le confinement, bon, je suis pas un spécialiste, je voudrais pas m'ériger en spécialiste, mais c'est sûr qu'il y a des méthodes de prévention en cas de pandémie qui ressemblent à ça. De là, traiter une catégorie qui sont les personnes âgées, dit-on, à partir de 70 ans, globalement. Parmi les personnes âgées, oui, il y en a qui sont plus vulnérables, qu'on doit cibler, etc. Mais le drame qu'on a connu, c'est les résidences. C'est les résidences. Oui. 80% des gens qui sont morts sont dans ces situations-là. Mais si on regarde par rapport à l'ensemble de la population, les mesures, à mon avis, étaient peut-être intéressantes, même si elles étaient difficiles. Mais moi, ce que je retire comme leçon, c'est qu'on est capable de transformation, de comportement, et même dans le travail, important en peu de temps. Alors, si on prenait conscience que pour développer un autre modèle, disons, de production et de consommation, je pense que si on s'entendait sur le modèle, on pourrait s'ajuster rapidement. On a fait la preuve que en cas de danger, on est capable. Ça, je trouve. Alors, j'ai trouvé ça intéressant.
Pensez-vous qu'on va changer? Les gens disent, il n'y a plus rien, ce sera jamais pareil. On va changer. Ou il y a des gens qui disent, on n'apprend jamais de nos erreurs.
Oh, alors là, oui, ça c'est une grave question. C'est vrai que moi, je suis un éternel optimiste. Je crois toujours que collectivement, on peut faire un débat démocratique large qui nous amène à arrêter des grandes orientations. Houellebecq en France dit ça va être du pareil au même, mais même en pire. Bon, moi, je pense pas. Je pense que collectivement, quand même, surtout qu'on est à la veille de grandes décisions. Au plan écologique, au plan énergétique, je pense même au plan démographique, on est à la veille de grandes décisions. Et je crois beaucoup au débat public, au débat démocratique, et cette pandémie va en générer plusieurs. Non, moi je pense qu'il y a moyen de faire autrement les choses.
En tout cas, M. Larose, vous n'avez rien perdu de votre fougue. J'invite les gens à lire votre texte très intéressant qui est paru hier dans Le Devoir, dans la section idées, les mutations après la pandémie. Merci beaucoup, M. Gérald Larose. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Merci.